France Info.
Bonsoir, bienvenue dans les informés de France Info, votre émission de débat et d'opinion sur France Info, franceinfo.fr, sur les réseaux sociaux, avec le hashtag les informés, également sur le canal 27 de la TNT. Vous le savez, le journalisme, c'est faire des choix de sujets. Et en arrivant à la rédaction de France Info, je vous raconte ma vie, j'ai entendu cette phrase qui est véridique. À ton avis, je la mets dans mon journal, cette histoire d'homme nu promené en laisse dans la forêt de Meudon. Alors, étrangement, cette brève ne sera pas choisie et il était tout de même important d'en parler, vu la situation actuelle. C'était fort de le dire en début d'émission. Et eux, ils se promènent habillés dans la forêt de l'actualité. Et ce soir, les informés de France Info reçoivent Éric Métou de l'Express, bonsoir.
Bonsoir.
Également Aurore Berger, bonsoir. Vous êtes élu des Yvelines et membre du comité politique En Marche. L'humoriste Guillaume Meurice, bonsoir.
Oui, bonsoir. C'était pas moi dans les bois, merci.
Bon, merci. Non, il fallait préciser également.
Il y a des rumeurs qui circulent.
Fake news.
Déjà.
Fake news.
Et Audrey Goutard, bonsoir de la rédaction de France Télévisions. Et ce soir, une très très large place, bien sûr, à la politique. La presse française également moyennement en forme. Mélenchon consulte. Et se tait, la France vraiment coupée en deux. Mais pour l'instant, dans les informés de France Info, c'est l'heure de notre premier débat. Alors depuis dimanche, on s'aperçoit qu'il y a une France coupée en deux. Depuis ce matin, ce clivage avec une France s'affine en fait, avec une France qui a un sèche-linge Whirlpool et une autre qui n'en a pas, voilà. Oui, l'analyse politique est de plus en plus pointue dans cette émission. En effet, aujourd'hui, nous avons eu droit à un duel à Whirlpool, puisqu'Emmanuel Macron et Marine Le Pen se sont rendus donc à Amiens, où le géant de l'électroménager a décidé de fermer sa dernière usine en France pour la relocaliser en Pologne. 290 emplois seront supprimés et l'usine est devenue un symbole vers lequel se tournent les candidats. Emmanuel Macron a rencontré les représentants des syndicats à la chambre de commerce d'Amiens, alors que Marine Le Pen, en même temps, déboulait sans prévenir à l'entrée de l'usine, multipliant selfies et poignées de main. L'image est parue violente. D'un côté, le favori dans un bureau, de l'autre, la candidate d'extrême droite sur le terrain. Et on a mis en plus une tartine sur le candidat d'En Marche, Marine Le Pen.
À l'abri dans je ne sais quelle salle de la chambre de commerce pour rencontrer deux trois personnes triées sur le volet, eh bien j'ai trouvé que c'était une preuve tellement de mépris à l'égard de ce que vivent les salariés de Whirlpool que j'ai décidé de sortir de mon conseil stratégique et de venir vous voir. Voilà, je suis pas en train de manger des petits fours avec quelques représentants qui en réalité ne représentent qu'eux-mêmes. Voilà.
Voilà, Marine Le Pen devant l'usine Whirlpool, donc il n'y a pas eu de petits fours, mais il y a eu une discussion. Et d'ailleurs, Emmanuel Macron, lui, a voulu s'exprimer dans un point presse et il a répondu à la candidate du Front National.
Madame Le Pen est donc venue à Amiens parce qu'il y venait. Bienvenue à elle. Mais Madame Le Pen n'a pas compris comment fonctionnait le pays et nous n'avons définitivement pas les mêmes ambitions ni les mêmes projets. Madame Le Pen, elle fait, elle, de l'utilisation politique puisqu'elle va haranguer des militants politiques sur un parking.
Alors ensuite, Emmanuel Macron s'est rendu à l'usine Whirlpool. Ça a été un peu chaotique au début. Et puis ensuite, s'est suivi un dialogue qui a duré un peu plus d'une heure. Aurore Berger, est-ce qu'au départ, quand on voit ces deux images, c'est vrai quand Emmanuel Macron reçoit les syndicats à la chambre de commerce d'Amiens et Marine Le Pen sur le parking devant l'usine, est-ce qu'il ne s'est pas un peu fait shipper son moment au départ quand même, Emmanuel Macron?
Ce qui est sûr, c'est que Marine Le Pen a essayé de déstabiliser la campagne, a essayé de s'imposer dans cette journée. Pourquoi Emmanuel Macron était présent à Whirlpool? Déjà parce qu'il y avait été invité, parce qu'il avait promis de s'y rendre. Donc honorer ses promesses, je pense que c'est plutôt un bon début quand on veut le lendemain exercer le pouvoir et devenir président de la République. Et il l'a fait avec méthode, c'est-à-dire d'abord on rencontre les représentants des salariés, donc l'intersyndicale, et après on rencontre les salariés. Ce qu'a fait Marine Le Pen, c'est un peu différent. C'est aller haranguer la foule, c'est promettre ce qu'elle n'est absolument pas sûre de pouvoir obtenir demain si elle était élue, à savoir qu'il n'y aurait aucune délocalisation, que Whirlpool resterait en France et que l'entreprise ne fermerait pas, en mépris total, justement, des discussions qui sont en cours, des possibilités de reprise, et en mépris total des syndicats. Donc, quand elle ose parler, justement, de mépris, moi, je trouve que le mépris, c'est d'essayer de se servir de cette situation de Whirlpool, des 286 emplois qui sont menacés, pour essayer de faire une image, pour essayer de faire le show.
C'est ça, alors c'est une histoire, une bataille de com', auquel on assistait quand même, Audrey Goutard.
C'est une bataille de com', peut-être, au départ, mais c'est vrai que Marine Le Pen a fait un hold-up, finalement, sur cet événement, mais ce qui est vrai, c'est qu'ensuite... Quand Emmanuel Macron s'est retrouvé dans l'arène, parce qu'il est descendu dans l'arène face aux gens, Et face à des militants qui étaient autant des militants FN parmi les employés, mais également des très proches de Mélenchon, effectivement, là, il a fait son baptême du feu quelque part. Il s'est retrouvé face à la foule, et là, il n'y a plus de com'. Parce que face à la foule, on peut se retrouver dans la situation des cadres de Air France, c'est-à-dire sans chemise, comme on peut se retrouver, si vous voulez. Et ça a été son cas, j'ai le sentiment, c'est ce que j'entendais, est-ce que ce qu'on peut penser, se retrouver avec une vraie discussion, comme vous le disiez, d'une heure, avec les employés de Whirlpool.
C'est compliqué à dire. Guillaume Meurice, quand vous voyez ces images, c'est vrai qu'on, ça nous a rappelé un moment, Emmanuel Macron a saisi, finalement, un appareil pour parler plus fort, justement, et il avait critiqué François Hollande, qui à Florange était monté sur un camion pour haranguer également les ouvriers, donc finalement, là, Emmanuel Macron s'est plus souvenu tellement de cette phrase.
Ouais, c'est ça. Bah non, c'est de la com' politique dans tout ce qu'il y a de plus dégueulasse et dans tout ce qu'il y a de plus cynique, quoi. C'est-à-dire que c'est des petites bagarres entre deux candidats et qui se répondent gna 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 gna. Et puis, ça laisse quand même des ouvriers sur le carreau. Il a parlé, moi j'ai regardé, il était sur Facebook Live, donc en temps réel, moi j'ai tout regardé. Et c'est vrai qu'il est fortiche pour apaiser les situations, mais il a absolument rien proposé. Il a dit « je suis venu », c'était une promesse, mais il aurait pu venir bien avant. Ça fait très très longtemps quand même que cette situation est connue, et surtout par lui. Donc évidemment, c'est que de la com' politique, et je crois que c'est vraiment... Ouais, c'est une sale campagne, quoi. Il est temps que ça se termine.
Oui, André Goudin.
Enfin, on peut dire que c'est de la com' politique, et c'est vrai que... On voit l'impuissance quand même des leaders politiques face au désespoir des gens. Parce que là, vous êtes face à des gens qui sont désespérés. Parmi eux, il y a des militants, etc., qui jouent leur jeu. Mais on voit
mais
les gens...
il y a 290 personnes, en effet, qui
jouent leur jeu. Et les gens ne proposent rien, ni Le Pen, ni Macron proposent quelque chose de concret pour eux, en fait.
Mais c'est ça qui est très intéressant. C'est intéressant parce que ce n'est pas de la com' politique, là, et ce n'est pas sortir de son chapeau toujours les mêmes rengaines. C'est qu'ils... ils sont, je pense, tout aussi désemparés que ces gens.
Mais ils viennent juste montrer leur gueule devant des caméras et c'est quand même assez gênant, en fait.
On va continuer à parler de cette rencontre d'Amiens. L'info à 20h10, Pierrick Bonneau.
Environ 500 personnes, essentiellement des jeunes, manifestent ce soir à Lille contre le Front National et ses dangers. Chiffre de la préfecture du Nord, ce défilé est organisé à l'initiative de plusieurs associations et partis politiques, dont le mouvement des jeunes socialistes, le PCF, les jeunes écologistes ou encore les étudiants musulmans de France. Emmanuel Macron accuse Marine Le Pen d'utilisation politique après sa visite surprise sur le site de Whirlpool à Amiens. La candidate du Front National a rencontré des salariés ce matin sur le parking de l'usine, alors que son adversaire était avec l'intersyndicale à quelques kilomètres de là. Emmanuel Macron affirmant que lui n'était pas venu faire de la démagogie s'est ensuite rendu à son tour sur le site où il a été longuement sifflé par les salariés. 43 700 demandeurs d'emploi sans aucune activité en plus le mois dernier. Le chômage est en hausse d'1,3% dans la catégorie de référence en mars. Mais le ministère du Travail précise ce soir que le nombre d'entrées à Pôle emploi est pourtant en diminution. Le nombre de demandeurs d'emploi toutes catégories confondues diminue le mois dernier de 0,2%. Des affrontements ce soir entre des combattants kurdes de Syrie et l'armée turque à la frontière entre les deux pays. Information de l'Observatoire syrien des droits de l'homme au lendemain de frappes aériennes meurtrières d'Ankara sur la zone. Selon l'OSDH, ce sont les Kurdes qui ont ouvert le feu sur un véhicule blindé turc qui avait franchi la frontière entre la Turquie et la Syrie. Les forces kurdes demandent ce soir une zone d'exclusion aérienne dans le nord de la Syrie.
France Info. 20h, 21h, les informés, Jean-Mathieu Pernin.
Les informés de France Info, nous parlons de ce face-à-face en Picardie. Et oui, aujourd'hui, Emmanuel Macron, Marine Le Pen ont tous deux été à l'usine Whirlpool, alors dans des conditions un peu compliquées pour Emmanuel Macron. Éric Métou, pour vous, justement, ce face-à-face, est-ce que c'est quoi? C'est que de la com', justement, comme vient de dire Guillaume Meurice?
C'est une campagne politique, donc de toute façon, à la base, c'est que de la com'. Moi, j'ai deux niveaux de lecture. Il y a un niveau de lecture technique, qui est le piège qu'a tendu Marine Le Pen très délibérément. Et très bien. C'est-à-dire qu'elle l'a mis dans la nasse. Et il y a un moment, on s'est demandé s'il sortirait de la nasse ou pas. Et techniquement, il est très bien sorti de la nasse. Ça, c'est d'un strict point de vue, justement, de communication et de stratégie. Derrière, ce qui est plus intéressant, c'est ce que elle propose et ce que lui, il propose. Et on peut quand même reconnaître à Macron de pas faire l'erreur qu'a fait Hollande quand il est allé à Florence. C'est-à-dire de promettre des choses dont il savait pertinemment qu'il pourrait pas les tenir. Là, il est allé là-bas pour dire, je pourrais pas sauver vos emplois.
C'est honnête, il a dit, c'est foutu.
Non, mais
c'est
une boîte qui perd, je sais plus, 9 millions d'euros par an. Enfin, c'est une boîte qui est en grave difficulté. Leur
c'est
dire, on va réussir.
Non, mais
leur dire, on va réussir à vous sortir de la merde, en nationalisant, comme le dit Marine Le Pen, ou en obligeant Whirlpool à faire ce qu'ils veulent pas faire. Mais ça, c'est juste du mensonge. On peut au moins lui reconnaître le mérite d'avoir tenu devant des gens, en plus, qui voulait absolument pas entendre ce langage-là, d'avoir eu ce courage-là. Et après, on pourra pas lui reprocher dans un an, quand Whirlpool fermera ou sera repris par...
Mais c'est pas ça la politique. La politique, c'est trouver des solutions aux problèmes des gens, en fait. C'est pas d'arriver sur place en disant « Désolé, je vais pas vous faire de fausses promesses, mais vous allez crever. »
C'est terrible, quand même. Est-ce qu'il y a des solutions à Whirlpool? Vous en savez rien, j'en sais rien.
Il y a des lois qui peuvent être...
Oui, on peut nationaliser. On peut renationaliser toutes les boîtes qui sont en crise en France.
On peut interdire des boîtes qui font des bénéfices de licencier. Il y a plein de choses à faire, en fait.
Ah oui, on peut interdire de licencier, mais ça, c'est pas du tout la politique de Macron, et il a jamais dit que c'était la sienne.
Donc c'est pour ça qu'il arrive et qu'il dit
c'est foutu. Non, mais c'est de la com. C'est son programme. Bah, voilà. C'est son programme.
Aurore Berger, est-ce qu'il n'y a pas aussi là dedans dans cette histoire d'Amiens aujourd'hui, ce duel que souhaite finalement le Front National sur entre guillemets les promondisations, les anti-mondialisations avec ce cas de Whirlpool?
Je suis désolée, je rebondis quand même sur ce qui a été dit.
Allez-y, après je voudrais quand même vous en
pour moi, il n'est pas, enfin déjà par rapport à ce qu'on dit sur la com politique, il est venu parce qu'on lui a demandé de venir, parce que l'intersyndicale l'a invité.
Il serait temps parce qu'on lui a demandé. Il y a quand même un paquet de temps.
Non mais c'est pas la même chose de s'inviter pour faire des selfies sur un parking parce qu'un autre candidat y est et de venir à l'invitation de l'intersyndicale qui fait le travail qu'il faut faire, c'est-à-dire qui étudie aujourd'hui toutes les solutions possibles, notamment de reprise. Après, quel est le discours qu'on tient? Soit on tient un discours démago et populiste qui est celui de Marine Le Pen et qui dit « Rassurez-vous, dormez tranquille, avec moi, aucune entreprise en France ne fermera, j'interdirai tous les licenciements, je renationaliserai toutes les entreprises où il y aura des participations de l'État partout, dont on sait pertinemment que c'est impossible. » Ou alors on dit « Maintenant, on va bosser pour qu'il y ait des solutions de reprise qui soient possibles et pour que les emplois puissent être soit pérennisés, soit qu'il y ait des reclassements, soit qu'il y ait des formations qui soient proposées, parce que nous, on n'est pas foutus quand on a 50 ans et qu'on peut avoir des formations qui sont proposées. » Et c'est ce qu'on propose justement dans le projet.
Ce qu'on dit certains finalement à Emmanuel Macron, c'est cette réflexion, vous auriez pu l'avoir quand vous étiez ministre de l'économie?
Mais il a travaillé sur la question de Whirlpool quand il était ministre de l'économie. Il l'a redit. Il a reçu l'intersyndicale. Et après, qu'est-ce qui s'est passé? Il a eu un désaccord politique avec le chef de l'État et il a décidé, du fait de ce désaccord politique, de partir et de créer son mouvement politique. Il allait faire quoi? Il a dit d'ailleurs dans ces termes-là, est-ce qu'il allait foutre le bordel, c'est-à-dire faire empirer une situation en étant lui-même candidat putatif à l'époque à l'élection présidentielle alors qu'il y avait un autre ministre de l'économie qui était en place? C'est pas le sujet. Si vous voulez, je suis pas sûre que ça aide Whirlpool.
Le sujet, c'est les salariés, en fait.
Non, mais le sujet, c'est les salariés. Bah ouais. Le sujet, c'est la pérennité des 286 emplois. Soit avec Whirlpool,
ils sont quand même
soit...
abandonnés, ces gens-là.
Non, ils sont non, pas abandonnés. Je suis désolée. Soit avec Whirlpool, soit avec des repreneurs sérieux. Qu'est-ce qu'il aurait dû faire? Il aurait dû continuer à venir sur le site alors qu'il n'était pas ministre de l'économie. C'est quoi le but? C'est qu'ils défilent tous pour promettre des choses qu'ils ne pourront pas tenir.
C'est pas ça la question. La question, c'est de quel
Ruffin,
côté il est. Est-ce qu'il est du côté d'une logique?
Attendez, Guillaume Meurice.
Est-ce qu'il est du côté d'une logique économique qui, justement, permet ces licenciements, ou est-ce qu'il est du côté de la protection des plus faibles? Normalement, l'État, c'est fait pour se mettre entre le plus fort et le plus faible. Donc là, clairement, il est soutenu. On voit qu'il est soutenu par Bernard Arnault, par toute cette. Ben ouais, mais c'est vrai. Je suis désolé, c'est factuel.
Et alors, c'est une honte d'être soutenu par des grands chefs d'entreprise qui créent de l'emploi en France.
Ouais, c'est un peu une honte d'être soutenu par Bernard Arnault qui a des paradis fiscaux.
En quoi c'est une honte d'être soutenu par des chefs d'entreprise qui créent de l'emploi en France?
C'est compliqué d'être soutenu quand tu es président de la République, d'être soutenu par des gens qui ont des paradis fiscaux. Donc c'est-à-dire qui.
Et alors, vous avez lu son programme sur les paradis fiscaux?
Ouais, j'aimerais bien qu'il l'applique. Ça, ça serait intéressant.
Donc, il l'a bien mis dans son projet.
Il a mis plein de choses. Voilà. Son programme, il est propre. Ça, il n'y a pas de problème.
Donc, c'est pas parce on peut pas dire n'importe quoi. Désolé, on est dans un second tour, on est face au Front National, on a l'impression qu'on l'oublie et que c'est totalement banal. Pour moi, c'est pas banal du tout d'être face au Front National. Et là, finalement, on passe plus de temps à critiquer Emmanuel Macron, qui est venu à l'invitation de l'intersyndicale, qui a décidé d'apporter des propositions concrètes sur la question de la reprise potentielle de ce site par d'autres entreprises, qui a refusé de faire des propositions hyper démagogues, qui sont de dire rassurez-vous, avec moi il n'y aura pas de problème, et on ne critique pas Marine Le Pen qui est venue pour clairement
le procès.
Mais non,
elle est venue pour rien dire non plus, elle est venue pour enfumer les gens, c'est des coups de com'.
Mais c'est pas pareil.
Attendez,
on ne peut pas mettre sur le même plan Marine Le Pen et Emmanuel Macron. Je suis désolée, c'est pas vrai. On ne peut pas les mettre sur le même plan.
On va juste écouter aussi Audrey Boutard.
Madame défend très bien son candidat, donc moi je ne suis pas là pour ça. Mais donc le fait est, en revanche, je réagis par rapport à ce que vous dites. C'est-à-dire qu'on ne peut pas dire aujourd'hui, alors qu'on a un vrai risque d'abstention, alors qu'il y a un vrai discours que je trouve franchement dangereux sur le fait c'est que des coups de com, les politiques sont là pour la com, etc. Faut arrêter avec ce discours.
Alors, parce
ça n'a rien à voir. On peut parler du fond. On peut parler du fond. On peut parler des problèmes de fond. Si il y a un vrai problème de fond, et on le sait tous ici, le vrai problème de fond, c'est finalement pas la présence d'Emmanuel Macron ou de coups de com ou de quoi que ce soit. Le vrai problème de fond, c'est que la société évolue.
Alors c'est pour ça, Audrey Guttard, j'ai posé la question tout à l'heure. Personne n'a voulu me répondre. Donc j'y retourne. Voilà, je vais vous dire, est-ce que c'est finalement, c'est pour ça que je dis Marine Le Pen, quand elle dit, moi, ce que je veux montrer, c'est Emmanuel Macron et le candidat de la mondialisation, moi, je suis la candidate anti-mondialisation, est-ce que c'est bien de poser les thèmes de ce deuxième tour en ces termes, finalement? Est-ce que c'est ça? Est-ce que c'est là
comme
le combat?
C'est comme ça que Marine Le Pen en tout cas,
est-ce que c'est ça? Bien sûr qu'il faut réfléchir. Enfin, tous les politiques le savent, c'est bien sûr là-dessus qu'il faut réfléchir. C'est qu'on soit pour ou contre la mondialisation, finalement, c'est pas
elle
vraiment le problème.
Surtout.
Oui, finalement, ça n'est pas vraiment le problème. Le problème, c'est quelle solution on apporte. Et là, vous avez raison. C'est vrai que les solutions visiblement apportées par Macron ne sont pas celles que vous préconiseriez. Celles de Le Pen, évidemment, ne sont pas celles que d'autres préconiseraient. Mais c'est vrai que le vrai fond du débat, il est là. C'est réfléchir à cette mondialisation. Et comment ces gens de Whirlpool aujourd'hui vont pouvoir se recaser? Parce que la vérité aussi, c'est quelque part ce que leur a dit Macron sur le terrain. C'est que leur métier tel qu'il est aujourd'hui ne peut plus s'appliquer de la même manière.
Alors Audrey Guttard, je voudrais juste signaler aux personnes qui nous suivent juste sur le canal 27 que vous allez, vous, justement vivre ce meeting d'Emmanuel Macron qui est diffusé en direct à la télévision, comme on disait à l'ancienne, voilà. Et nous, on va continuer notre émission normalement, comme avec tous nos auditeurs habituels, sur France Info. Éric Métou, justement.
Donc
sur
on peut commencer à se mettre les doigts dans
le nez,
alors.
Vous pouvez y aller, n'hésitez pas. Je sais que c'est votre plaisir et votre douceur. Sur ce terme mondialisation, anti-mondialisation.
C'est l'ouverture ou la fermeture. Et on a suffisamment menti, par exemple, sur l'Europe. Enfin, un des clivages entre Marine Le Pen et Macron, c'est l'Europe. Et à force de dire que oui, les politiques sont tous pourris, oui, tout ce qui arrive à Whirlpool et aux employés de Whirlpool, c'est la faute de l'Europe, alors que c'est exactement l'inverse. La solution, elle est dans l'Europe, elle est dans la force, elle est dans la puissance, dans la collectivité européenne. Eh ben oui, on arrive à des situations comme celle-là. Est-ce qu'on peut, encore une fois, ce qu'on doit lui reconnaître, c'est qu'il n'arrive pas pour tenir un discours en disant tout va s'arranger parce que moi j'arrive. Il arrive en disant c'est dur.
Voilà,
vous êtes dans,
c'est
vous êtes dans, non, pas c'est foutu. Vous êtes dans une région sinistrée. Mais je veux pas défendre Macron. Mais je veux pas défendre Macron.
Je défends deux types de.
Je défends deux types de discours. Il y a effectivement un des deux qui ce matin a dit bah oui ça va être difficile et qui est monté au front, qui est allé les affronter pour leur dire ça. Et c'est vraiment pas ce qu'ils avaient envie d'entendre. Il y a une autre candidate qui est venue pour leur dire c'est tous des pourris. L'Europe c'est horrible, c'est de leur faute. La mondialisation c'est de leur faute. Et moi je vais nationaliser votre entreprise.
Non,
et vous allez tous garder votre job.
Alors justement, on parle de
participation. Il y a quand même une différence de niveau.
On va continuer à en parler justement de la Picardie. Décidément, ce soir à l'honneur, l'info à 20h20, Pierrick Bonneau.
Emmanuel Macron accueilli par des sifflets tout à l'heure sur le site de l'usine Whirlpool d'Amiens. Après une déambulation houleuse parmi les salariés, le candidat En Marche a fini par prendre la parole pour attaquer Marine Le Pen. La fermeture des frontières, c'est une promesse mensongère. Je reviendrai pour rendre compte, a lancé Emmanuel Macron. Ce matin, la candidate du FN avait fait une apparition surprise sur le parking de l'usine. Le député Les Républicains de Paris, Pierre Lellouche, annonce ce soir à France Info son retrait de la vie politique. À 66 ans, le moment est venu pour moi de laisser la place à la génération suivante. Précise le parlementaire. Dans le courrier qu'il nous adresse, Pierre Lellouche critique vivement les appels lancés par la droite à voter Emmanuel Macron au second tour. Le député qualifie cette posture d'incohérente et de périlleuse. Malgré les preuves dont les services de renseignement français disent disposer sur l'attaque chimique en Syrie, le numéro 2 du Front National doute toujours de la responsabilité du régime de Bachar al-Assad. Dans Question d'info sur LCI, en partenariat avec France Info, Florian Philippot demande à voir les preuves de l'utilisation du gaz sarin. Il fait le parallèle avec le déclenchement de la guerre en Irak. L'attaque perpétrée le 4 avril a fait 87 morts, dont 31 enfants. Et puis la mort du réalisateur américain Jonathan Demme, Le silence des agneaux, c'est lui. Film qui lui a valu l'Oscar du meilleur réalisateur en 1992. Le cinéaste a succombé à un cancer à l'âge de 73 ans.
France Info. 20h, 21h, les informés. Jean-Mathieu Pernin.
Les informés de France Info, nous parlons d'Emmanuel Macron face à Marine Le Pen. C'est le second tour de la présidentielle, mais c'est également cet affrontement finalement à distance qu'on a pu voir aujourd'hui. Juste un petit mot, Aurore Berger, on a beaucoup critiqué Emmanuel Macron sur son début de seconde campagne. Vous pensez que cette fois-ci, il est vraiment relancé, que ça lui a redonné un petit peu de vie, finalement, d'aller se frotter au monde ouvrier?
J'ai pas l'impression qu'on soit vraiment arrêté. Dès lundi, il était à nouveau en campagne. Il a rendu hommage sur la question du génocide arménien, qui est quand même un sujet essentiel. Peut-être que ça n'a pas fait autant de couverture que ça aurait pu en avoir. Mais non, je parle pas de ça. Mais je pense que la question du génocide arménien, c'est quand même un enjeu aussi essentiel en termes de valeurs. Et c'est pas anodin qu'il ait choisi de faire ce déplacement-là dans un second tour qui, face au Front National.
Alors, je voudrais vous montrer une chose aussi et en parler. C'est les deux candidats qui ont dévoilé aujourd'hui leurs nouvelles affiches et leurs nouveaux slogans.
C'est ultra gênant.
Alors voilà, il y a Ensemble la France pour Emmanuel Macron, Marine Le Pen avec genoux apparents, assis sur son bureau.
Non, mais choisir le graphiste du Front National.
Choisir la France, Marine Le Pen.
Un Photoshop, à mon avis.
Très cadre supérieur. C'est le vainqueur de l'élection, c'est Photoshop.
Très cadre supérieur et qui abandonne. Et
surtout Les deux, c'est Photoshop.
Qui abandonne surtout le slogan au nom du peuple. Voilà, c'est ça. Justement, Guillaume Meurice, vous, quand vous les avez vus, ces affiches, quelle impression avez-vous eue, en fait, en les voyant la première fois?
Ah, bah, il y a beaucoup de gêne. Ah, on va pas se mentir.
Chez qui?
Ah, bah, la première que j'ai vue, c'est Marine Le Pen. Alors, on a vraiment l'impression que c'est le corps d'une autre personne. Et même au niveau de l'éclairage, on a vraiment l'impression que c'est un graphiste de 12 ans qui a collé juste une tête quoi sur Paint.
Ouais, c'est ça.
Non mais c'est très gênant. Et puis après Macron, c'est plus classique. Bon, il se prend pour Kennedy, on a l'habitude, donc ils lui ont gommé un peu, ils lui ont fait un gommage graphique. Bon, c'est un peu plus classique. C'est tout aussi ridicule, mais bon, c'est moins. C'est moins gênant.
Éric Métou, alors ce qui est assez intéressant, c'est on voit Marine Le Pen, donc il y a Marine seulement, il n'y a plus le nom de famille, il n'y a pas le sigle Front National, la flamme maintenant qui est transportée par une rose bleue, et surtout l'abandon de son slogan au nom du peuple. Maintenant c'est choisir la France, donc c'est quoi? C'est plus apaisé?
Bah, elle est passée en phase de séduction, réunion des Français, tous derrière moi, plus de clivage, etc., etc. Enfin, c'est une démarche assez logique quand on arrive dans une campagne de deuxième tour. Après, je voulais juste, on a eu des retours sur l'affiche de Marine Le Pen, et c'est assez délibérément fait en direction des musulmans pour affirmer qu'en France, on peut porter une jupe et montrer son genou quand on est une femme politique. On jugera de l'élégance de la démarche, mais ça nous a été dit comme ça.
D'accord, de la part du Front National. De la part du Front National. Audrey Goutard, aussi, quand on voit Marine Le Pen ou Emmanuel Macron, la France, Ensemble la France et également Choisir la France, on sent que voilà, c'est pareil, patriote contre nationaliste, comme avait dit également Emmanuel Macron dimanche soir.
Évidemment, il y a cette idée, mais je m'interroge toujours sur l'impact de ce genre d'affiche. Enfin, on disserte nous tous et on s'intéresse, c'est vrai, mais est-ce que ça joue en quelconque manière sur ce que peuvent ressentir les Français?
C'est plus sur les slogans, peut-être, ça a changé, on voit les slogans.
Et c'est vrai qu'on voit des slogans, bah, évidemment, de présidentiables, et puis il y a effectivement cette notion, quand même, qui est la France, patriote, c'est les mots de notre époque, quoi, voilà.
Aurore Berger, quand Emmanuel Macron, justement, a parlé de ça, patriote contre nationaliste, pour vous, aujourd'hui, c'est le patriotisme, ce mot, d'ailleurs, de patriote, avait été repris par le Front National, c'est délibéré, justement, d'aller sur ce terrain-là.
Il n'y a pas des mots qui sont interdits et qui doivent être laissés et qui sont propriétaires du Front National. Moi, je pense que c'est ça. Je pense que c'était l'enjeu, c'est de se réapproprier des termes dont le Front National n'est pas propriétaire. Et en effet, quand il dit les patriotes versus les nationalistes, ça démontre bien un clivage. Quand elle dit d'ailleurs choisir la France au détriment de l'Union européenne, notamment, puisque c'est ça aussi le clivage qu'elle essaye d'installer. Et d'ailleurs, que nous, on assume, puisqu'on assume justement une identité qui est aussi une identité européenne. Donc voilà, moi, je pense que c'est utile, en tout cas, que le Front National soit pas propriétaire du mot France ou du mot patriote.
Ça vous a surpris hier, d'ailleurs, sur TF1, elle a dit « je suis très européenne, mais pas pour l'Union européenne ». Audrey Goutard, c'est quand même un mélange, une syntaxe quand même assez étonnante.
C'est une syntaxe assez étonnante, mais à mon avis, qui est utilisée vraiment à escient, puisque je pense que ça représente ce que ressentent une bonne partie de la population française, et notamment de la droite. C'est-à-dire que je pense qu'aujourd'hui, personne ne sent, et c'est le problème d'ailleurs de Marine Le Pen d'une certaine façon, c'est que même dans son électorat, tout le monde pense que l'Europe existe. Personne ne nie plus l'Europe. Donc effectivement, elle est obligée de se repositionner, alors qu'elle a un discours très anti-européen, sur le fait que reconnaître quelque part que l'Europe existe et qu'elle est bien, européenne. Et parce que pour les Français, l'Europe est une vraie réalité. Et lorsque vous interrogez même les électeurs du Front National, et c'est bien le problème de Marine Le Pen, c'est que dans le fond, ils ne se voient pas vivre sans l'Europe.
Mais, en plus, elle détourne du pognon au Parlement européen. Elle serait quand même bon fait de dire que...
En plus, elle a effectivement une affaire judiciaire très
clair. Alors justement, Guillaume Meurice, si tu écoutes J'annule tout, donc dans lequel vous travaillez sur France Inter, bien sûr. Mais justement, vous faites des reportages. Vous avez fait un reportage sur le lendemain de la présidentielle.
Oui, j'ai été au QG de François Fillon. J'ai été un petit peu à un enterrement.
Et comment, voilà, juste une petite question. Oui. Alors, parce qu'on va parler de la droite dans un instant, mais justement, comment ils l'ont vécu alors?
Il y avait beaucoup de tristesse. Et évidemment, c'est de la faute des médias. Et évidemment, c'est de la faute des juges. Un petit peu, on a l'impression d'être en Corée du Nord, donc ça m'a beaucoup amusé, ouais.
D'accord, très bien.
Rien que le très classique, hein, là, je vais pas vous surprendre.
Non, mais voilà, je vois ça. Non, mais voilà, c'était pour ça.
Une petite remontée de terrain, mais voilà.
Vous faites bien, mais vous êtes notre reporter de terrain, vous le savez. Allez, les informés de France Info, dans un instant, on va parler de ce qui se passe à gauche, notamment chez Jean-Luc Mélenchon. On parlera également un peu de la droite. Oui, on fait un panorama complet. C'est l'air Picard, hein, sûrement, qui doit nous donner envie. Les informés de France Info, on revient dans quelques minutes.
Et si appeler depuis et vers l'étranger ne coûtait pas plus cher?
Et moi, avec mon forfait Pro Orange, que j'appelle Londres depuis le bureau ou mon équipe depuis Londres, ça ne me coûte pas plus cher.
Ah, ok. Bah, moi, en plus, dans mon forfait Pro Orange, j'ai le Brésil, le Maroc...
Enfin, peut-être, mais moi, en plus, je peux utiliser mes 40 gigas partout en Europe, au Canada et aux États-Unis.
Et moi, dans les DOM.
Et moi, dans les TOM.
Avec le forfait Performance Pro Intense Travel, votre forfait Orange devient aussi international que votre business. Vous rapprochez de l'essentiel. Orange. Offre soumise à conditions sous réserve d'éligibilité. Plus de détails sur orangepro.fr.
Restez connectés à France Info sur tablette et smartphone. Téléchargez l'application France Info, écoutez la radio en direct, regardez les vidéos et abonnez-vous aux alertes pour ne rien manquer de l'actualité. Franceinfo.fr, c'est aussi votre site d'information en continu et des infos à partager sur tous les réseaux sociaux.
France Info. France Info Météo avec Gauthier. Fabricant français de mobilier contemporain, à découvrir dans nos magasins et sur gauthier.fr.
Et à Météo France, on retrouve Élodie Calac.
Encore frais et changeant, demain on va garder un ciel hésitant entre soleil et nuages, quelques averses de temps en temps, des averses plus nombreuses l'après-midi entre l'Aquitaine et le Massif central, parfois avec un coup de tonnerre. Sur la façade est et sur les Pyrénées, là peu de place pour le soleil, des averses aussi, de la neige sur l'ensemble des massifs. On n'oublie pas le vent, un petit vent de nord frais, Mistral, Tramontane également, jusqu'à 70 km à l'heure en Méditerranée. Les températures seront encore bien basses, moins 3 à 4 degrés le matin, toujours plus dans le sud-est, 6 à 12 degrés. L'après-midi, 9 degrés à Langres et Aurillac, 11 à Lille, Alençon, Besançon, 12 à Lyon et Poitiers, 13 à Nantes et Paris, 14 à Toulouse, 16 à Marseille, 20 degrés pour Bastia.
France Info.
Deux points, ouvrez l'info.
Et l'info à 20h30, c'est Rémi Inc. Bonsoir.
Bonsoir Jean-Mathieu, bonsoir à tous. L'emploi ouvrier au centre de l'entre-deux-tours de la présidentielle. Marine Le Pen s'est rendue ce matin sur le site amiénois de Whirlpool à la rencontre des ouvriers. Usine symbolique qui produit des sèches-linges qui va être délocalisée en Pologne. Plus de 600 emplois sont en danger. Au même moment, Emmanuel Macron rencontrait l'intersyndicale à la Chambre de commerce et d'industrie d'Amiens Picardie. Mais en voyant la candidate d'extrême droite aller sur le terrain, Emmanuel Macron ne pouvait faire autrement que de s'y rendre aussi. Une arrivée tendue. Reportage de Benjamin Elie.
Décifré à l'arrivée, Emmanuel Macron en terrain hostile sur le parking de l'usine, il a défié la méfiance des Whirlpool. Il a tenté le dialogue au contact avec les ouvriers.
On ne peut pas interdire les licenciements, parce qu'il y a des licenciements qui se justifient, d'autres non. Donc qu'est-ce qu'on peut faire sur un cas comme vous? On doit se battre pour qu'il y ait un repreneur. Sur le PSE, si je suis élu président de la République, il n'y aura aucune homologation de complaisance. Pourquoi? Parce que c'est un groupe qui gagne de l'argent, qui est productif, qui a servi du dividende.
Donc ça, vous le garantissez?
Mais ça, je vous le garantis. Il n'y aura pas d'homologation de complaisance s'il n'y a pas un plan social qui est au niveau de la réponse qu'il vous doit.
Ça, vous vous engagez à faire respecter ce...
Je ne suis pas en train de vous dire je vais nationaliser Whirlpool, vous voyez? Ça, c'est de la pipe. Ce que je suis en train de vous dire, je peux vous le dire et je peux aller au bout.
Une heure de discussion tendue, mais quand Emmanuel Macron est reparti, l'ambiance semblait plus apaisée. Nadine, 49 ans, 25 ans chez Whirlpool.
Je vais prendre ma décision. Il y a des choses qu'il a dit qui sont bien. Après, il y en a d'autres pour les ouvriers, c'est vrai que c'est moins bien.
Est-ce que, entre guillemets, il a un peu inversé la tendance?
Il l'a fait tard, mais il l'a fait. On verra bien.
Est-ce qu'aujourd'hui, vous avez pardonné l'amiénois?
Je ne pardonne jamais. je suis rancunière.
La rancune tenace, Emmanuel Macron a donc tardé pour cette rencontre selon les Whirlpool, selon les salariés. Il a tardé à entendre le malaise social dans sa ville natale. À Amiens, Jean-André Giannichini, Benjamin Illy, France Info.
Emmanuel Macron qui est en meeting ce soir à Arras dans le Pas-de-Calais. Et puis notons que le Parlement européen a entamé le processus devant aboutir à la levée de l'immunité parlementaire de Marine Le Pen pour l'utilisation présumée frauduleuse de fonds européens qui lui est reprochée. Elle ne sera toutefois pas convoquée avant le second tour de l'élection présidentielle du 7 mai prochain. Deux mauvaises nouvelles sur le front de l'emploi aujourd'hui. Les chiffres du chômage pour mars. D'abord, une hausse de 1,3% du nombre de demandeurs d'emploi inscrits à Pôle emploi en catégorie A, c'est-à-dire sans aucune activité. Et puis le tribunal de commerce de Bobigny a ordonné la liquidation judiciaire de l'enseigne de mode à petit prix Mime et la fermeture immédiate de 162 boutiques. 791 emplois en CDI sont menacés. Et puis le ministère russe des Affaires étrangères dénonce aujourd'hui des bombardements aériens turcs contre des positions kurdes mardi en Irak et en Syrie. Des bombardements déjà critiqués par les États-Unis. Les forces kurdes appellent à une zone d'exclusion aérienne dans le nord de la Syrie. Il est 21h33, tout de suite la deuxième partie des Informés de France Info avec Jean-Mathieu Pernin et ses invités.
20h, 21h, les informés, Jean-Mathieu Pernin.
Les informés de France Info jusqu'à 21h sur France Info, franceinfo.fr, sur les réseaux sociaux avec le hashtag les informés et pas encore sur le canal 27 puisqu'il y a Emmanuel Macron qui nous grille la politesse. C'est incroyable.
Mais enfin, mais arrêtez de regarder le canal 27.
Voilà. Et eux, mais de toute façon, tout le monde écoute France Info. Donc, et eux, ils smackent l'actualité avec passion. Et ce soir, les informés de France Info reçoivent Éric Métou de l'Express, Aurore Berger, élu des Yvelines et membre du comité politique En Marche, l'humoriste Guillaume Meurice et Audrey Goutard, la rédaction de France Télévisions. Alors, c'est vrai que l'année politique a été longue pour certains, encore plus. Prenons le cas de Jean-François Copé, l'ex-petit prince de la droite française, l'ex-mannequin chocolatine. Eh bien, il a dévissé aux primaires de la droite en récoltant seulement 0,3% du suffrage, on le sait. Et maintenant, lui, maire de Meaux, s'aperçoit que dans sa ville, le candidat arrivé en tête dimanche soir, c'est Jean-Luc Mélenchon. Et oui, voilà. Alors, Copé est marabouté, on va pas autre chose, S'exprimera-t-il sur le silence de Jean-Luc Mélenchon? Apparemment, non. C'est plutôt le sujet qui occupe toutes les conversations à gauche. À partir d'aujourd'hui, les militants de la France Insoumise s'expriment sur Internet pour donner leur avis pour le second tour. Ils ont le choix entre trois propositions. Je vote blanc ou nul, je vote Emmanuel Macron ou je m'abstiens. Le choix de Marine Le Pen n'est pas proposé aux 450 000 soutiens de la France Insoumise. Et ce matin, le porte-parole de Jean-Luc Mélenchon a voulu clarifier la situation. Alexis Corbière.
Dimanche 7 mai, pour certains, voteront blanc ou nul, pour certains, voteront Emmanuel Macron, voire pour d'autres, n'iront pas voter. Il y a parmi toutes ces trois options, aucune qui est immorale. Elles sont toutes légitimes, compréhensibles. Dans la consultation, il est clair qu'à aucun moment, le choix du vote Front National n'est posé. Je le dis et j'insiste là-dessus, car il s'agit de notre ADN politique. Pas une voix ne doit aller pour le Front National. Pas une.
Voilà, Alexis Corbière, porte-parole de Jean-Luc Mélenchon aujourd'hui lors d'un point presse au QG de la France Insoumise. Éric Métou, Jean-Luc Mélenchon, on l'a appris, ne donnera aucune indication sur son vote. Est-ce qu'il a raison de faire ça, finalement?
Je dois vraiment dire le Front National.
Je ne sais pas. Est-ce que pour vous,
Je trouve ça d'une irresponsabilité et d'une lâcheté insigne. Voilà.
Oui. Pourquoi? Parce que, est-ce que vous pensez que c'est de la tactique politique?
Parce que c'est une vieille lune de l'extrême gauche qui vaut mieux se taper les ennemis de classe que les social traîtres. Enfin, c'est minable, quoi. C'est minable. Et en plus, je pense qu'il y a derrière ça une rancœur personnelle, c'est-à-dire qu'il n'accepte pas d'avoir perdu. Ils sont quand même en train ils envoient des porte-paroles partout pour dire que les résultats ont été truqués. Enfin, ça devient n'importe quoi. C'est Marine Le Pen en face. Il a appelé à voter pour Jacques Chirac. Je veux bien que Emmanuel Macron, ça soit l'antéchrist. Enfin, il y a quand même, encore une fois, il y a une différence de nature.
C'est ça, Guillaume Meurice, vous, ça vous étonne?
Je suis d'accord. L'antéchrist, je suis d'accord. Mais il y a encore pire. C'est ça.
Ça vous étonne cette attitude ou pas?
Ça me déçoit en fait plutôt. Moi, voilà, je fais mon coming out. J'ai voté Jean-Luc Mélenchon au premier tour. C'est pas tellement surprenant. Ouais. Non, ça me déçoit. Après, il y a deux choses. Les appels au vote, j'ai toujours trouvé ça ridicule. Dire aux gens, on se met tous ensemble et j'appelle à voter. Ouais. Bon, après, qu'ils disent pas pour qui lui il va voter, ouais, ça me gêne un peu, ouais, parce que prends tes responsabilités, t'as envie de dire voilà quoi.
Ce qui est étonnant en plus, c'est
que. Oui, ça arrache la gueule à tout le monde de dire on va voter Macron. Tout le monde.
Non, pardon.
Guillaume Sarras, ce qui a étonné beaucoup de gens, c'est qu'en 2002, d'ailleurs, l'archive est ressortie. C'est qu'on se souvient de Jean-Luc Mélenchon manifestant contre Marine Le Pen, appelant à voter Jacques Chirac contre Jean-Marie Le Pen, pardon. Et là, c'est pour ça qu'on s'étonne de la type, peut-être.
Et là, je comprends même pas, en fait, le référendum qu'ils font, en fait. Je pige pas le truc. C'est quoi, pour donner la ligne du parti
de la France Insoumise du mouvement.
On s'en fout, chacun fait ce qu'il veut et vote en conscience. En plus, c'est un parti qui se construit, ça s'appelle les Insoumis. Enfin, c'est un parti qui se construit sur vraiment la liberté individuelle et chacun fait ce qu'il veut. Et
c'est la collectivité vote et après toute la collectivité, quoi qu'elle pense, va voter comme la collectivité.
Quel gâchis, en tout cas. La campagne était assez formidable de Mélenchon.
Oui, bien sûr.
Tout le monde s'accordait à dire, malgré des désaccords de fond, évidemment.
Mais il avait fait une
belle campagne. Il avait plutôt rendu hommage à la politique en évoquant plein de thèmes de fond. Et là, pourquoi
en tout cas, il y en a une qui saute sur l'occasion, c'est Marine Le Pen. Là, j'entendais Steve Briouat qui appelait, qui finalement a lancé un appel à peine camouflé aux électeurs de Jean-Luc Mélenchon en demandant d'effectivement, puisqu'ils ont quand même des points communs, excuse-moi. Ils ont quand même des points communs, notamment sur leur détestation de l'Europe, leur détestation de la mondialisation, etc. Il est évident évidemment.
C'est pas exactement la même chose sur l'Europe.
Non, mais
Mélenchon ne déteste pas.
Dans l'esprit des gens qui sont aujourd'hui anti-système, qui supportent plus rien, qui sont en colère, etc., qui ont voté Mélenchon en se disant jamais Marine Le Pen, eh ben, vous en avez qui vont évidemment voter pour Marine Le Pen là.
Juste pour aller dans votre sens, hier sur TF1.
C'est suicidaire, mais c'est comme ça.
Hier sur TF1, Marine Le Pen a dit clairement, les électeurs de la France insoumise, je les vois mal voter pour la France soumise. Et il y a eu en effet un trait diffusé sur Internet pour montrer les rapprochements de programmes programmatiques entre Jean-Luc Mélenchon et Marine Le Pen, diffusé par le Front National. Donc on voit en effet qu'il y a une tactique assez lourde. Voilà, ça ne prend pas. Mais
les sondages disent que ça prend pas pour l'instant. Par contre, ce qui va prendre probablement, c'est l'abstention.
Abstention, voilà. Aurore Berger, vous justement chez Emmanuel Macron, comment vous jugez ça? On voit que Emmanuel Macron, il a eu un petit mot, pour qualifier cette attitude, vous-même, quand vous voyez Jean-Luc Mélenchon ou tout le processus, finalement, je voulais revoter pour savoir quelle attitude à avoir au second tour.
Moi, je trouve ça indigne de la part de Jean-Luc Mélenchon, en fait. Je comprends pas, honnêtement, à part probablement de l'aigreur, parce que quand il est apparu dimanche soir, on sentait quand même une vraie aigreur par rapport aux résultats, où il a remis en cause les résultats officiels, où en effet, il envisage même des contestations, pourquoi pas dans le Conseil constitutionnel sur les résultats. Et je trouve que ça jette son discrédit sur la campagne qu'il a menée. Donc, à un moment, je pense que c'est aux électeurs de Jean-Luc Mélenchon, eux, en conscience, de décider. Clairement, toute abstention, tout vote blanc, on le sait pertinemment, servira Marine Le Pen et desservira donc la possibilité d'un front républicain. Le tract a été lancé pour essayer de montrer qu'il y avait des convergences entre le programme de Jean-Luc Mélenchon et celui de Marine Le Pen. Aux électeurs de savoir si vraiment ils se sentent des convergences avec Marine Le Pen ou si ça reste dans leur ADN que de faire un barrage à l'extrême droite.
Vous ne pensez pas que l'abstention peut être aussi une protestation?
Mais dans ce cas-là, dans un cas de second tour entre l'extrême droite et Emmanuel Macron, clairement, on le sait, l'abstention et le vote blanc serviront à la montée de l'extrême droite.
Le dernier sondage en la matière dit que 22% des électeurs de Mélenchon sont prêts à voter Marine Le Pen au second tour, et alors que 55% des électeurs effectivement de Mélenchon, et là je vous rejoins, iraient plutôt chez Macron. Donc voilà, mais 22% des électeurs, c'est quand même pas rien. Donc effectivement, dans une élection aussi sensible, etc., où effectivement Emmanuel Macron doit gagner avec un fort score pour sortir honorablement de toute cette histoire, eh bien effectivement 22% c'est quelque chose quand même.
Et d'ailleurs on aura le résultat donc mardi prochain à midi, donc on saura donc la position de la France insoumise. Je rappelle donc juste les trois, c'est je vote blanc ou nul, je vote Emmanuel Macron ou je m'abstiens. Dans un instant on va parler de la droite également, de la position de la droite face à ce second tour. L'info à 20h40, Pierrick Bonneau.
La ville d'Amiens, théâtre d'un duel surprise entre Marine Le Pen et Emmanuel Macron. La candidate du Front National a rendu ce matin aux salariés de Whirlpool une visite qui n'était pas prévue alors que son adversaire rencontrait de son côté l'intersyndicale. Emmanuel Macron est allé à son tour cet après-midi parler aux salariés accueillis par des Marine Le Pen présidentes et des sifflets. Le candidat d'En Marche est en meeting en ce moment à Arras, dans le Pas-de-Calais. Le témoignage de Patrick Dils cet après-midi au procès de Francis Holm, accusé à son tour du meurtre de deux enfants en 1986. Entendu comme simple témoin, Dils, condamné pour ses meurtres puis acquitté, s'est à nouveau retrouvé accusé par les avocats des parties civiles. Il a réexpliqué à la cour les pressions dont il aurait fait l'objet de la part des inspecteurs de police pour passer aux aveux. L'État va devoir verser 15 000 euros aux parents d'une jeune de 17 ans partie en Syrie en 2013. Décision du Conseil d'État qui pointe des négligences du contrôle aux frontières de la part des policiers français. L'adolescente était en effet inscrite sur le fichier des personnes recherchées, mais elle a pu embarquer dans un avion en direction Istanbul. L'indemnité sera versée à la famille en raison du préjudice moral subi. C'était l'un des derniers fiefs de l'organisation État islamique en Irak. Avec la vieille ville de Mossoul, les forces pro-gouvernementales annoncent avoir repris la cité antique d'Atra, classée au patrimoine mondial de l'UNESCO, située au sud-ouest de la deuxième ville d'Irak. En avril 2015, l'organisation djihadiste avait publié une vidéo montrant les combattants détruire à Atra des sculptures millénaires. Et puis cette annonce du président de la FIFA, Gianni Infantino, l'arbitrage vidéo sera utilisé au mondial 2018 en Russie.
France Info.
20h, 21h, les informés, Jean-Mathieu Pernin.
Les informés de France Info. Alors, Amiens, capitale politique d'un jour en France, mais il n'y a pas que la Picardie aujourd'hui. Non, il y a eu aussi sur Facebook un nouveau soutien pour Emmanuel Macron. Enfin, plutôt une nouvelle voix, celle de Nicolas Sarkozy. Et oui, alors les Républicains en plein tiraillement. L'ex-président de la République sort de son silence en publiant un texte sur le réseau social avec cette phrase. Je voterai donc au second tour de l'élection présidentielle pour Emmanuel Macron. C'est un choix de responsabilité qui ne vaut en aucun cas un soutien à son projet. Alors, est-ce que c'est important, Audrey Goutard, qui donne aujourd'hui son avis quand on voit la situation à droite où, lors du communiqué du comité des Républicains, le nom d'Emmanuel Macron n'était pas cité. Lui, il cite Emmanuel Macron.
Oui, c'est Emmanuel Macron. En même temps, il dit qu'il va se retirer de la vie politique, donc voilà.
Oui, enfin, vous savez comment.
Oui, c'est...
C'est
ce qu'il a déjà fait en partie, c'est vrai. Mais enfin, donc, il ne sera plus au sein de son parti. Donc, c'est un petit scud avant de partir. Mais
Vous pensez que ça peut apaiser justement lui en tant qu'autorité, finalement presque ancien président de la République, au sein des Républicains, peut-être une voix qu'on écoute aujourd'hui, ces tensions qu'on voit palpables aujourd'hui chez les Républicains?
Mais c'est vrai qu'il a un vrai poids au sein des Républicains, et c'est vrai qu'il a un poids important et qu'il est écouté. Donc oui, effectivement, ça peut apaiser. Par ailleurs, la question qu'il faut se poser, c'est est-ce que ça aidera vraiment Emmanuel Macron? Je sais pas.
C'est ça.
C'était après Hollande, le Sarkozy, effectivement.
C'est ça. Éric Métou, pendant les primaires, Nicolas Sarkozy avait expliqué mettre fin au Nini, le fameux ni Front National, ni adversaire au second tour auquel les Républicains n'étaient pas qualifiés, auquel il s'affiliait jusqu'à présent. Donc là, il le met en application. C'est un changement aussi.
Je pense que ça aurait été Mélenchon ou Hamon en face, il l'aurait peut-être pas fait aussi clairement.
Ouais.
Même s'il dénonce le programme de Macron, il est plus proche de celui des Républicains que celui de Hamon ou de Mélenchon. Donc, et après, le Nini, ça s'applique aussi beaucoup aux législatives et aux campagnes locales.
Ouais, c'est-à-dire,
c'est aussi une manière de ne pas faire éliminer les candidats sur place. Derrière, c'est un scud et ça montre aussi qu'il tient plus le parti autant qu'il le voudrait ou qu'on le dit quand même, parce que ça part à volo, entre Ciotti d'un côté, Estrosi et Ciotti, c'est la guerre nucléaire dans le sud. C'est quand même avant-coureur d'une explosion possible, sinon probable, des Républicains.
Alors, on a vu Aurore Berger, quelques Républicains, finalement, aller vers Emmanuel Macron.
On le connaît bien.
Certains. Oui. Et là, récemment, on a également vu, par exemple, Bruno Le Maire qui fait des offres de service. Il y a François Baron qui s'est dit, pourquoi pas, moi, Premier ministre, on l'a vu aujourd'hui, de cohabitation, comme ils disent, avec Emmanuel Macron. Aujourd'hui, c'est la chasse aux Républicains qui est ouverte chez En Marche.
Non, il n'y a pas de chasse aux Républicains qui est ouverte. Ça n'a jamais été le cas. Ceux qui souhaitent nous rejoignent sur la base d'un projet. Il y a deux choses différentes. Il y a celles et ceux qui veulent aider au rassemblement face au danger du Front National et de l'extrême droite. Et il y a celles et ceux qui veulent ensuite participer à un projet, à une majorité présidentielle sur la base, encore une fois, du contrat avec la nation qui a été établi par Emmanuel Macron.
Ce que disait Audrey Goutard, c'est vrai qu'il y a un ancien président de la République, un président de la République actuel qui le soutient. Est-ce que, finalement, ce que dit le Front National, c'est-à-dire candidat officiel, candidat, vous savez, du système, comme on dit, d'Emmanuel Macron, avoir autant de ralliements, est-ce que finalement ça peut pas être un peu gênant, même pour lui? Parce qu'est-ce qu'il va en faire après, d'ailleurs?
Déjà, c'est ce que je viens de dire, c'est que je pense que vous mélangez deux choses. Vous mélangez ralliement à un projet et soutien pour faire barrage à l'extrême droite. Ce sont deux choses qui sont différentes. Nicolas Sarkozy, d'ailleurs, le dit. Il le dit beaucoup plus clairement, en effet, que le communiqué de presse des Républicains en nommant Emmanuel Macron, mais il dit aussi qu'il ne soutient pas le projet. Donc, c'est deux choses différentes. Et clairement, on voit bien que les Républicains essayent aujourd'hui de faire croire qu'ils peuvent continuer à exister. Moi, je crois que ce parti est mort. Je crois que la manière avec laquelle les divisions s'expriment sur un sujet essentiel, qui est celui justement du barrage face au Front National, montre bien à quel point ce parti était peut-être trop élastique, on va dire, et ne pouvait plus arriver à tenir ensemble. J'espère que du coup, il va définitivement acter sa mort et que peut-être qu'une autre droite pourra se reconstruire. Peut-être qu'une partie d'entre eux souhaitera nous rejoindre. Mais encore une fois, sur la base de notre projet, et on n'en changera pas une ligne.
C'est ça. Guillaume Meurice, vous aujourd'hui, ce retour aujourd'hui de Nicolas Sarkozy, vous avez vu, vous nous disiez tout à l'heure que vous
pour
étiez...
Pour un humoriste, c'est un régal. Hein. Là, franchement,
vous étiez chez François Fillon lundi matin, c'est ça? Bon, vous ne savez pas très bien. Dimanche soir, pardon. Vous ne savez pas très bien. Suite à sa défaite, aujourd'hui, Nicolas Sarkozy, de faire cet appel, il cite Emmanuel Macron, vous, voilà, pour vous, c'était une évidence.
Mais on avait dit que Nicolas Sarkozy, c'était fini. Pourquoi il revient? Il revient sans cesse. C'est pas possible. Il avait dit qu'il arrêtait.
Parce que peut-être qu'auprès des militants, ça peut être encore, non?
Mais ça, j'ai un sacré doute là-dessus. C'est comme Christine Boutin qui soutient. À quel moment quelqu'un attend de savoir ce que pense Christine Boutin, en fait?
Mais Nicolas Sarkozy, c'est quand même.
Nicolas Sarkozy, vous pensez qu'il y a des gens qui se disent, ah, c'est Sarkozy?
Oui, bien sûr. Bien sûr.
Ça, c'est pour
les militants
là-dessus, mais.
Pour les militants, pour les sympathisants, les républicains, ça reste une autorité
morale. C'est vrai
que Sarkozy,
il a des fans et tout. Donc, peut-être.
C'est ça.
Non, mais c'est vrai qu'il a assez, il a vraiment des
jobs. Oui. Quelque part, il connaît le métier. Il connaît le job. Si lui dit qu'il pense que Macron pourrait, etc., peut-être que des militants peuvent se dire.
C'est pas ce qu'il dit, c'est pas tout à fait ce qu'il
dit. Il le dit, non, mais
il imagine.
Pudeur
de gazelle.
Mais. Oh non, c'est plus pudeur avec
des. Pardon, je recale des éléments de langage.
Exactement, arrêtez, Guillaume. Arrêtez avec cette campagne. Il faut que ça s'arrête absolument. Quelle leçon, justement, tirée donc de ce premier tour des présidentielles, élimination des partis traditionnels, recomposition du paysage politique français, pas de percée des petits candidats, une abstention qui tient aux alentours de 20% et prévoir un peu plus de 20 en 2 semaines. Voilà les principaux enseignements. Mais quand on fait un peu de géographie électorale et qu'on schématise, on voit un pays véritablement coupé en deux. À l'ouest, Macron. À l'est, Le Pen. Les grandes villes pour Emmanuel Macron. Les plus petites pour Marine Le Pen. Un vote qui met en relief les fractures françaises et qui illustre le fossé de plus en plus grand entre ville et campagne. Alors, le vainqueur du 7 mai pourra-t-il réconcilier ce pays? Description de la nouvelle carte de France par le politologue Laurent Bouvet.
Elle recoupe d'assez près la carte du oui et du non au traité constitutionnel européen de 2005. Donc on est dans une évolution qui est aussi une évolution de plus long terme, pas uniquement sur le jugement par rapport au quinquennat. C'est quelque chose qu'il faut regarder dans sa totalité. Et puis c'est aussi une carte qui recoupe des réalités sociologiques, c'est-à-dire qu'on a des régions industrielles déclassées, on a sur le niveau de diplôme par exemple, on est dans une France de la réussite scolaire par rapport à une France plutôt de la sortie précoce du système.
Voilà, le politologue Laurent Bouvet, donc sur Public Sénat. On a tendance, Audrey Goutard, à dire Emmanuel Macron, c'est la France qui va bien, Marine Le Pen, la France qui va mal. Quand on regarde la carte de France, on a l'impression que c'est un peu ça aussi, c'est-à-dire que Marine Le Pen prospère là où il y a davantage de chômage, de la désindustrialisation. Emmanuel Macron a plus de voix dans une France où il y a un peu moins de chômage.
Ah bah, évidemment, puisqu'effectivement, il faut le discours de l'extrême droite, de toute façon, même si Marine Le Pen se défend, maintenant on dit plus extrême droite, par exemple.
Non, et puis elle n'est plus présidente du Front National.
Elle n'est plus présidente du Front National, etc. Néanmoins, c'est un discours anxiogène, de repli sur soi, etc. On le sait très bien, c'est le discours qui touche les gens qui sont dans des situations difficiles. Alors, moi, j'ai retenu dans cette carte de France, justement, j'ai trouvé très intéressant l'histoire du département du Nord.
Oui.
Département de Marine Le Pen, où elle fait 28%. Elle fait 28% sur l'ensemble du département, mais par contre, pour Lille, elle fait moins de 13%. Et je trouvais que c'était intéressant parce qu'effectivement, on comprend bien que le Nord, qui est complètement dévasté, qui a de grandes difficultés économiques, séduit Marine Le Pen. Donc voilà, séduit parce que ce sont les gens comme les gens de Whirlpool, etc. Et que Lille, qui est une ville super dynamique, et ben, elle séduit Macron, qui propose une politique assez libérale, d'ouverture sur le monde, etc. Et donc effectivement, voilà, c'est ce qu'on rencontre, ce qu'on retrouve un peu partout dans le monde. C'est Trump et Hillary Clinton, quelque part, c'était la même chose, même si on ne peut pas faire de comparaison exacte.
C'est pas le même bassin de population.
Ouais, mais quand même, c'est un peu les mêmes réflexes.
Alors, on va continuer à parler de cette géographie électorale, j'aime beaucoup ce terme. Dans un instant, l'info à 20h50, Pierrick Bonneau.
Nouvelle hausse du chômage le mois dernier. Le nombre de demandeurs d'emploi sans aucune activité fait un bond d'1,3% par rapport à février. Plus 43 000 inscrits sur les listes de Pôle emploi dans cette catégorie. Selon le ministère du Travail, cette hausse ne s'explique pas par de nouvelles inscriptions, mais par le fait que beaucoup de demandeurs d'emploi des autres catégories ont cessé d'exercer la moindre activité en mars. 800 emplois vont être supprimés. Le tribunal de commerce de Bobigny ordonne la liquidation judiciaire de l'enseigne de mode à petit prix Mime. Les 162 boutiques vont être fermées sans délai. L'enseigne fondée en 1976 avait été placée en redressement judiciaire en novembre. Au cœur de l'entre-deux-tours de la présidentielle, le Parlement européen entame le processus de levée de l'immunité parlementaire de Marine Le Pen. Enquête sur les soupçons d'emploi fictif du FN à Strasbourg. Des magistrats français ont demandé aux parlementaires européens de lever l'immunité de la candidate pour poursuivre leur enquête. 13 personnes arrêtées et placées en garde à vue depuis lundi dans l'enquête sur les attentats de janvier 2015. 10 en France et 3 en Belgique. Ces personnes sont soupçonnées d'être impliquées dans la fourniture d'armes à Amédic Coulibaly. Les enquêteurs cherchent également à savoir si ces suspects étaient au courant des attentats de Montrouge et de l'Hypercacher. L'attaque au gaz sarin contre la ville syrienne de Khan Cheikhoun le 4 avril porte la signature du régime de Bachar al-Assad. Dans un rapport des services de renseignement, Paris affirme avoir des preuves qui accusent Damas.
France Info. 20h, 21h, les informés, Jean-Mathieu Pernin.
Les informés de France Info, nous parlons de cette nouvelle carte de France, nouvelle carte électorale hein, depuis dimanche dernier avec une fracture Est et Ouest. Éric Métou, est-ce que justement ces deux candidats, Emmanuel Macron, Marine Le Pen, est-ce qu'ils accentuent justement, est-ce qu'ils sont les représentants de ces fractures, ils les mettent en relief, ils sont...
Ça saute aux yeux quand on regarde les cartes, enfin je pense pas qu'ils accentuent, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, c'est-à-dire qu'on est passé au deuxième tour, c'est le combat que tout le monde attendait entre effectivement une France qui se plus sur soi qu'à peur. Enfin, je pense que derrière tout ça, il y a quand même beaucoup de trouille et des raisons d'avoir la trouille. Hein. Les endroits où ça se passe, effectivement, dans le Nord, ces gens-là sont au chômage, ils souffrent d'extrême pauvreté, c'est tout à fait normal. Et puis des endroits où ça se passe bien, et effectivement, des gens qui sont qui se disent le projet que nous propose Macron, bah, ça nous fait regarder devant. C'est vrai que quand on est ouvrier chez Whirlpool, on a du mal à regarder devant. Ouais. Et nous, on a fait au-delà de l'électorat de Marine Le Pen, on a fait un travail. On a empiriquement coupé en deux les candidats entre des candidats système qui étaient Macron, Hamon, Fillon et les anti-système. Et ça recoupe exactement les mêmes géographie en fait. Et on sent que ces gens-là en ont marre, ils sont fatigués. Ils sont fatigués notamment qu'on leur fasse des promesses qu'on ne tient pas. Donc c'est pour ça que peut-être il faut un jour leur dire un peu plus la vérité et qui votent contre ce qu'ils appellent le système. Alors après, dire que Marine Le Pen n'est pas dans le système ou que Mélenchon n'est pas dans le système, c'est une vaste rigolade.
Bien sûr.
Sénateur
Guillaume Meurice, finalement, aujourd'hui, le 7 mai, quand on voit ces deux France, c'est possible de les réconcilier ? Est-ce que, parmi ces candidats, c'est possible de les réconcilier, ces deux France ?
Oui, parce que c'est quand même des gens qui existent en vrai et qui se parlent. Là, on parle
de manière assez abstraite. Mais les réconcilier, ça veut dire sur les intérêts communs.
Je crois qu'on a oublié une troisième, et c'est même celle qui a gagné les élections, c'est l'abstention. En fait. Oui. On oublie toujours de les mettre dans les cartes, mais il y a beaucoup de gens qui sont désespérés au point de ne pas aller voter. Et c'est la majorité des suffrages. C'est quand même, on devrait quand même se pencher là-dessus. Alors ils apparaissent pas parce qu'évidemment on prend pas en compte ni les votes blancs et ni ces choses-là, ni les votes nuls.
Ça fait 20% à peu près.
C'est dans une démocratie qui est censée bien fonctionner, il y a un vrai problème. Et c'est un problème de représentation, quoi. C'est-à-dire que les gens se sentent plus représentés par les élus. Ça devrait poser question. Ça me pose question. Moi, quand je vais faire des reportages, c'est un bien grand mot, à l'Assemblée nationale. Non, mais c'est vrai que je demande souvent aux députés, mais est-ce que vraiment vous connaissez, vous êtes proche du peuple, est-ce que vous connaissez les aspirations ? Et en fait, ils connaissent plus la petite tambouille politique de à quel moment il faut s'allier avec un tel. C'est devenu un jeu très très dangereux en fait.
Et non, mais surtout, ce qui est intéressant aussi, c'est vrai que les députés, c'est le monde aujourd'hui qui l'a sorti, c'est qu'on se rend compte qu'il y a très peu de parlementaires issus du monde du travail.
Mais
c'est-à-dire
ouais.
Très peu, même
ouais,
si on travaille,
moi je ne leur en veux pas à eux, c'est juste la structure. C'est la structure.
Est-ce qu'il faut avoir fait une crise cardiaque pour être un bon cardiologue ? Je veux dire, c'est un peu le débat.
Parce que la métaphore est un peu bancale.
Pourquoi ?
Évidemment, pour savoir comment les gens vivent au quotidien, il faut être avec eux.
Le député, il est sur le terrain, il vit au quotidien. C'est pas moi.
Audrey Boutin, c'est vrai que souvent quand on dit ça, ça veut dire qu'il y a des personnes qui font des carrières.
C'est un discours ambiant dangereux. C'est dangereux de dire ça.
Le politique.
Ah oui, effectivement, vous avez le maire du 7e arrondissement qui doit pas voir effectivement le vrai peuple en permanence. Mais vous avez la majorité des députés. Ce sont des gens qui sont sur le terrain. Est-ce qu'il faut avoir eu un vrai métier, comme on dit?
C'est une question.
La réponse est évidemment
c'est pas pour vous, c'est pour mon voisin d'à côté.
Non, mais même
c'est bien d'avoir eu un vrai métier, mais c'est pas la condition sine qua non pour être quelqu'un capable de répondre aux attentes
ça
des
devrait
gens.
Être obligatoire.
Je dis pas que c'est la condition sine qua non et que ça résoudra tout. Je dis juste que par contre, avoir 90% en gros des parlementaires qui sont des cumulards dans le temps, qui sont en majorité des hommes, qui sont en majorité de la même formation, etc. À un moment,
Des carriéristes politiques, en fait.
Mais c'est au-delà de la carrière, c'est qu'il y a une uniformité à l'Assemblée qui n'est absolument pas représentative de ce qu'est la France.
Donc les gens ne vont plus voter.
Clairement, là, ce qui va se passer, honnêtement, sur les élections législatives, il y a à peu près un tiers des députés sortants qui ne se représentent pas, quels que soient les partis politiques. Il y a aussi, nous, l'espoir qu'on a d'avoir une majorité présidentielle. On va investir 50% de personnes qui n'ont jamais eu de mandat politique.
Quand est-ce qu'on les connaîtra, Aurore Berger?
Vous aurez 577 candidats investis en marche.
J'attends de voir la personne de la vie civile qui fait de la politique. C'est-à-dire faire de la politique.
Mais pourquoi on serait forcément incompétent? Je ne dis pas de la vie civile.
C'est incroyable, ça. J'ai pas dit que ce serait forcément, soyons pas manichéens.
Je dis simplement que c'est pas une évidence.
C'est pas parce que, effectivement, on est un bon professionnel. Qu'on est un bon politique.
Non, mais comme l'inverse,
c'est pas parce qu'on a fait trois mandats qu'on est un bon parlementaire.
Mais non plus. Il ne faut pas être magnifique.
On va rester sur cette interrogation. Voilà, essentiel en tout cas pour vous. Merci Aurore Berger d'être passé ce soir aux Informés de France Info. Merci Audrey Goutard, Guillaume Meurice. On vous retrouve dès demain à votre poste sur France Inter entre 17h et 18h. Si tu écoutes, j'anime tout aux côtés d'Alex Vizorek et Charline Vandenecker. Et Éric Pétou, la une de l'Express cette semaine.
On a parlé de la victoire d'Emmanuel Macron. On a titré qu'il avait gagné, mais comme on est taquin, on a titré qu'il avait gagné son pari pour l'instant.
Très bien.